franceinter.fr.
D'ici 3 heures, et donc pour la première fois, l'Europe va se poser sur Mars. La première partie du programme ExoMars de l'ESA touche au but pour tenter de répondre à la grande question, y a-t-il de la vie sur Mars ?
C'est la question à 100 millions de dollars. Moi, je suis convaincu qu'il y a eu de la vie sur Mars.
Je pense qu'il est fort probable qu'il y ait de la vie sur Mars.
Personnellement, je ne pense pas qu'il y a de la vie sur Mars, mais c'est mon opinion personnelle.
Voilà, c'est comme le couple, personne n'est vraiment d'accord sur la question. Les scientifiques du CNES, en tout cas, leur pronostic au sujet de la mission ExoMars, c'est depuis 3 jours, donc l'atterrisseur Schiaparelli de l'ESA, qui descend vers la surface de Mars, et cet après-midi à 16h52 précise, il va entamer la procédure finale de son atterrissage. 6 minutes critiques, vous allez suivre avec émotion, Fabienne Cazoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, directrice adjointe pour l'innovation et les applications de la science au CNES. Comment est-ce qu'on se sent à 3 heures du moment tant attendu ?
Un peu inquiète, mais j'ai confiance.
Ouais.
Ça va bien se passer.
Qu'est-ce qui vous inquiète ?
Un atterrissage sur Mars, c'est toujours un moment très difficile. Il y a plein de choses qui peuvent se passer mal pendant la descente. Voilà, c'est compliqué. C'est toujours une première, en fait. L'atmosphère de Mars n'est jamais comme on pense. Non, bon, voilà. Mais ça va bien se passer.
À 16h40, les 6 minutes importantes vont commencer. C'est quoi les moments clés de cette descente, alors ?
Les moments clés, je dirais que c'est le moment où le parachute va s'ouvrir, puisque on commence par freiner très fort avec à l'entrée de l'atmosphère avec un bouclier, donc qui va chauffer, qui va passer à 2000 degrés, et ensuite un peu plus bas, c'est un parachute qui s'ouvre. Mais on est encore à 1800 km/h.
Ah oui.
Donc ouvrir un parachute à 1800 km/h, bon, là aussi, c'est quand même quelque chose de difficile. Ensuite, un peu plus bas, le parachute va être largué. Et puis, ce sont les 9 rétrofusées qui vont s'allumer. Encore un petit moment difficile. Est-ce que tout va bien se passer ? Est-ce qu'on va être bien, rester bien à plat ? Et là, je dirais que bon, si ces étapes-là se passent correctement, on est à peu près arrivé à 2 mètres du sol environ. On va arrêter les moteurs.
Et on tombe.
Et on tombe.
Ah ! Alors, dans les textes, vous présentez ce module comme un démonstrateur ou un éclaireur. C'est quoi sa véritable mission, là, sur Mars ?
Je reconnais que le terme démonstrateur est un petit peu... Bon, c'est très technique, c'est du jargon.
C'est il faut bien,
on aurait dû arrêter de dire démonstrateur. C'est un atterrisseur. Voilà.
Sa mission, c'est atterrir
et c'est montrer.
C'est tout ? Il n'y a que ça ?
C'est principalement ça.
C'est-à-dire que l'Europe, pour l'instant, veut se prouver à elle-même qu'elle est capable de faire atterrir...
Exactement.
Un objet comme Schiaparelli.
Un objet ouais. Qui est quand même un assez gros objet, puisqu'au départ, avant qu'il se débarrasse de ses boucliers, parachutes, etc., il fait quand même 600 kilos. Donc, faire atterrir sur Mars. Alors, il ne faut pas oublier que dans ce programme ExoMars, là, cette année, il y a l'atterrisseur et il y a l'orbiteur. Il faudra en parler de l'orbiteur.
On en parlera.
Bon, bien sûr. Donc, l'atterrisseur, c'est la mission principale. Montrer qu'on est capable de faire toute cette séquence, l'entrée, le parachute, les rétrofusées et puis atterrir.
Ce que les Américains savent très bien faire déjà.
Oui, mais ils ont eu, rappelez-vous, c'était il y a longtemps, mais ils ont eu de très très nombreux échecs. Il y a eu au moins 3 ou 4 missions qui n'ont pas réussi à se mettre en orbite, qui n'ont pas réussi à atterrir ou qui ont atterri un peu trop vite. Mm-hmm. Les Russes n'y sont jamais arrivés. C'est difficile, Mars.
Alors, l'Europe a déjà raté aussi une fois.
Oh oui, mais bon...
Oui, on vous rappelle les mauvais souvenirs, ben, non, c'est comme
vraiment.
Ça.
Oui, alors donc en 2003, l'Europe a réussi la mise en orbite, la première mise en orbite d'un orbiteur européen qui s'appelait Mars Express, qui marche toujours, 10 ans après, donc c'est quand même une bonne réussite. Et en même temps que cet orbiteur Mars Express, il y avait un atterrisseur qui s'appelait Beagle 2, qui a atterri, parce qu'on l'a retrouvé plus tard, mais dont on n'a jamais eu de nouvelles. Donc voilà, mais cette fois-ci, ça va marcher.
Et la réponse à la question de la vie, alors c'est pour quand ? C'est pour plus tard ?
Alors la question de la vie sur Mars, alors moi je vais vous dire mon opinion personnelle puisque tout le monde la donne. De la vie sur Mars en ce moment, je n'y crois pas trop, mais des traces de vie passée sur Mars, oui, ça c'est la grande question. Mm-hmm. Ça c'est la deuxième partie du programme ExoMars, celle qui va partir en 2020, qui comportera, elle, un rover, un véhicule qui va se déplacer avec ses 6 roues, Et la grande originalité de ce rover d'ExoMars, c'est qu'il comporte une foreuse.
Ouais.
Bon, on a beaucoup parlé de Curiosity, de ses résultats. Curiosity a fait énormément d'analyses, mais il a juste gratté
ça
la surface.
Oui, c'est ça.
Oui, ça gratte la surface de Mars. C'est déjà très bien. Mais le rover d'ExoMars va être équipé d'une foreuse qui va d'abord essayer de récupérer des échantillons à 50 cm de profondeur. Et puis dans une deuxième étape, 2 mètres de profondeur.
Et ça, c'est une véritable prouesse. Hein.
C'est une prouesse. Et surtout, c'est intéressant, c'est important pour la recherche de traces de vie, parce qu'on sait que l'atmosphère de Mars est vraiment très oxydante, qu'on est exposé au rayonnement solaire. Tout reste de particules organiques, de molécules compliquées, va être complètement détruite à la surface de Mars. Tandis que sous la surface, on espère trouver des
choses. Protégé du soleil en particulier, donc.
Oui, hein,
ouais. Vous en avez parlé, il y a un orbiteur autour de Mars, celui qui a largué Schiaparelli. Il va tourner, c'est lui qui va faire la science là pendant les prochains mois, les prochaines années.
Oui, alors donc cet orbiteur s'appelle le TGO, encore un nom qui est pas très joli. TGO, ça veut dire Trace Gas Orbiter. Il va rechercher des gaz traces dans l'atmosphère de Mars. Alors un gaz trace, à nouveau, c'est du jargon. Les gaz traces, la définition, c'est que c'est moins de 1% de la composition de l'atmosphère. Et en fait, ça peut être un élément très important de l'atmosphère. Dans l'atmosphère terrestre, le CO2, c'est un gaz trace. Il fait moins de 1%. Mais pourtant, on sait son importance. C'est lui qui est responsable d'une partie du changement climatique. Donc, étudier les gaz traces dans l'atmosphère de Mars, c'est comprendre comment l'atmosphère de Mars fonctionne. On va chercher principalement le méthane, mais aussi des choses comme l'argon, le néon, des gaz de ce type.
Ouais. Et alors, le forage, c'est prévu pour quand, vous le disiez, 2020...
On arrive plutôt en 2021.
2021, oui. Et vous n'avez pas peur de vous faire devancer par les Américains qui sont
ils
déjà
n'ont
sur place?
Ah,
ils n'ont pas de foreuse.
Ouais. Non,
donc les chances de trouver des traces de vie, elle est plutôt du côté européen.
Oui,
alors,
mais
hein.
Vous savez que la mission NASA, donc il y a aussi une mission de la NASA qui va partir en 2020, mars 2020, qui est un rover aussi qui ressemble beaucoup à Curiosity, mais avec des instruments un peu différents. On sait ce qu'il y a dessus comme instrumentation, puisqu'on a un instrument, nous, CNES et la France, on a un instrument sur Mars 2020. Il n'y a pas de foreuse.
Alors, la NASA nous a habitués à de très belles images de Mars. Est-ce que là, Schiaparelli va, avant de s'éteindre, prendre au moins une photo?
Il prendra une photo en descendant.
Ah.
Ça, c'est pas mal non plus. Enfin, il prendra une quinzaine de photos.
À quelle distance
je crois que la dernière doit être à 1,5 km. Et bon, pour des raisons de masse, de puissance à bord, bon, l'atterrisseur, c'est vraiment, on a dit, c'est un démonstrateur. Donc, il a vraiment des ressources limitées. Il fonctionne sur batterie, enfin, vraiment, et puis très peu de transmission radio. Bon, donc, il n'y a pas de caméra. Et puis, bon, alors, c'est une petite déception, mais en même temps, maintenant, on est tellement habitué à ces panoramas incroyables que nous envoie Curiosity.
C'est vrai.
Ces images où on peut zoomer quasiment à l'infini.
Oui.
Voilà.
Il y a de très belles choses, effectivement, qu'on peut voir. Et donc, on croise les doigts 16h52 tout à l'heure. On aura la confirmation à 16h52 précise ou il faudra un petit laps de temps ?
On devrait avoir la confirmation vers 17h. Alors, la descente dure 6 minutes.
Oui.
Il faut presque 10 minutes de toute façon pour que les données arrivent. Donc, de toute façon, on ne peut rien faire. Et on le saura 10 minutes après. La première confirmation devrait venir par un radiotélescope qui est en Inde, qui suit la mission depuis pratiquement une heure avant la descente. Et normalement, on devrait voir le signal qui est reçu par ce radiotélescope continuer.
Bon.
Si c'est bien passé.
Eh bien, on ira sur nos comptes Twitter, on est autour de 17h pour voir ce qui se passe, évidemment, du côté de l'ESA, à l'occasion de l'arrivée donc de Schiaparelli sur la planète Mars. Merci beaucoup, Fabienne Casoli, pour ces précisions. Et puis, Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le pic flamboyant change de couleur à cause de plantes invasives. Cet oiseau commun d'Amérique du Nord est en train de voir son plumage passer du beige jaune au rouge orangé. Et tout cela à cause de changements dans son alimentation très friand des bêtes de chèvrefeuille qui envahissent les forêts nord-américaines depuis quelques années. Les oiseaux gourmands prennent petit à petit la couleur rouge foncé due à la rhodoxanthine contenue dans les petits fruits du chèvrefeuille. Un bloc de pierre de jade de plus de 210 tonnes vient d'être sorti de terre par des mineurs birmans dans la province de Kachin. Une photo postée par la BBC montre le bloc de pierre impressionnant, estimé à plus de 170 millions d'euros. Il a fallu aux ouvriers 2 jours pour extraire cette énorme masse de pierre semi-précieuse qui s'est cassée en 2 fragments au moment de sa levée. La Birmanie, l'un des principaux pays exportateurs de jade au monde vend pour plus de 31 milliards de pierres par an, soit la moitié de son PIB. Et puis enfin, des vents stellaires qui dépassent les 10 millions de kilomètres par heure. Oui, vous entendez bien, c'est ce que viennent de mesurer des scientifiques islandais en observant en détail le cœur de la nébuleuse Homunculus. Au centre de ce tumulte, l'étoile Eta Carinae, une des plus massives de notre galaxie et dont l'explosion est visible depuis 2000 ans, située à plus de 10 000 années-lumière de nous, c'est pourtant une des étoiles les plus brillantes de notre ciel austral, rayonnant par seconde l'équivalent de 5 millions de fois notre Soleil. Une photo d'Eta Carinae et de sa nébuleuse est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré.